France Inter. Le 18-20. Christelle Rebière.
La guerre en Ukraine n'en est qu'à J+7 et pourtant on a l'impression qu'elle dure depuis des semaines. 860 000 personnes ont déjà fui leur pays. Il y a plus d'un million de personnes déplacées à l'intérieur. On est face à la plus grave crise de réfugiés de ce siècle en Europe, d'après le Haut Commissariat aux réfugiés. La résistance du peuple ukrainien nous touche. Ces milliers de personnes qui prennent le chemin de l'exode, parfois à pied dans une interminable attente, nous obligent. Alors France Inter se montre solidaire avec cette journée spéciale. C'est le moment de nous dire ce que vous êtes prêts à faire pour eux et on va voir comment l'aide s'organise. Et tout de suite, on accueille une première auditrice qui a fait le 01 45 24 7000. Bonsoir Véronique.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue. Alors,
merci.
Dites-nous.
Eh bien voilà, j'habite un tout petit village de 180 âmes dans l'Ariège et je suis présidente d'une association intercommunale et les membres du bureau se sont vus ces derniers jours en se disant bon ma foi il faut faire quelque chose, les images que l'on voit, tout ce qu'on entend c'est affreux, donc peut-être aussi mon histoire personnelle fait que j'ai été interpellée. Bon, et nous avons décidé d'intervenir. Ici en Ariège, ce sont plutôt des dons qui sont demandés et nous souhaitions plutôt faire une collecte de matériel. Nous nous sommes donc adressés à une association à Toulouse, une association ukrainienne dont le nom est le Yaroslavna, pardon.
Oui.
Et qui nous a donné un petit peu la liste du matériel nécessaire
à savoir.
Pour tous ces réfugiés. Eh bien, notamment des couvertures, des lits de camp, des choses pour dormir, mais aussi des produits d'hygiène, des produits, des médicaments ou des produits pharmaceutiques, des bandages, des choses comme ça. Donc, nous avons décidé, je suis allée voir les maires des communes aujourd'hui pour qu'ils mettent à disposition des salles de collecte et puis qu'ils distribuent aussi auprès de leurs habitants l'information.
Oui.
Et avec les membres de l'association, nous allons tenir des permanences pour récupérer ces dons et ensuite les convoyer jusqu'à Toulouse, jusqu'à l'adresse de cette association.
Qui, elle, va se charger de les acheminer vers ceux qui en ont besoin.
Exactement.
Et ben, c'est une belle initiative. Merci beaucoup, Véronique, d'avoir témoigné sur France Inter. Bonsoir, Axel Davzac.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice générale de la Fondation de France, premier réseau de philanthropie de notre pays. La Fondation de France a déjà mobilisé 300 000 euros pour les Ukrainiens et a lancé un appel aux dons pour apporter une aide d'urgence à des familles ukrainiennes, celles qui partent et celles qui ne peuvent pas partir. Concrètement, comment ça se passe? Expliquez-moi.
Alors, la Fondation de France a une expérience importante de la gestion de ces crises et de la manière, finalement, d'aider cette générosité qu'on voit très bien s'exprimer encore à l'instant.
Oui,
c'est extrêmement émouvant et touchant. Et aujourd'hui, dans notre pays, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui souhaitent être généreux, qui souhaitent montrer leur solidarité.
Et souvent, ils disent « je veux le faire, mais je ne sais pas comment ».
Absolument. Du coup, la Fondation de France, pourquoi nous organisons une collecte de dons? Donc, vous l'avez dit, nous avons mobilisé tout de suite 300 000 euros. Nous avons lancé un appel à dons. À l'heure à laquelle nous parlons, nous avons collecté déjà 1 million d'euros.
1 million d'euros
oui,
déjà.
Oui, la générosité est très présente. Vous l'avez dit, je crois que les gens sont très touchés de voir toutes ces personnes qui fuient, qui sont inquiètes. Il faut aussi penser à ceux qui sont coincés en Ukraine et qui se retrouvent dans une angoisse absolument majeure. Et donc, notre approche a été de dire depuis vendredi dernier, déjà, vous l'avez dit, nous sommes un réseau. Donc, nous avons fait appel à notre réseau. La Fondation de France participe à un certain nombre de réseaux, notamment européens, dans lesquels nous avons des amis proches qui sont la Fondation de Pologne dans tous les pays d'Europe. Et nous les avons contactés pour qu'ils nous donnent déjà les premiers noms des associations locales avec lesquelles ils travaillent. C'est un point auquel la Fondation de France est très attachée, c'est de travailler en priorité avec les actions locales. Pourquoi? Parce que ces structures, elles sont sur le terrain, elles connaissent les besoins, elles connaissent les personnes et elles savent mettre en œuvre l'aide de manière extrêmement efficace et rapide.
Et vous avez confiance en elles aussi, parce que c'est très important de savoir exactement où ça va et comment.
Alors, nous travaillons en deux temps, c'est-à-dire que nous nous adressons à nos partenaires. Donc, nous avons reçu une liste de 70 associations qui sont recommandées par nos partenaires. Et l'équipe de la Fondation de France sera présente sur place demain, en Pologne, pour aller rencontrer ces associations, vérifier l'état de la situation et du coup pouvoir effectivement donner en toute confiance.
Mmh. Il y a deux cas de figure hein, pour vous. L'aide aux réfugiés dans les pays limitrophes, vous en parliez, en Pologne, en Roumanie, et aussi aider les associations en Ukraine pour l'aide d'urgence. Et les besoins sont très différents, j'imagine.
Alors, les besoins sont très différents. Le point très important sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est oui. que les besoins bougent et les besoins changent. Et c'est aussi pour ça qu'il est très important d'être très en lien avec les associations locales. Les premiers jours, on nous a demandé, comme vient de l'exprimer cette auditrice, de l'eau, des couvertures. Hier, nous avons eu un besoin d'une association qui est à la frontière polonaise, qui nous a dit, alors je pense que les auditeurs le savent, il y a beaucoup de femmes et d'enfants seuls. Pourquoi ? Parce que les hommes sont restés en Ukraine pour se battre. Et il y a une association qui accompagne des jeunes, des enfants, et qui nous a dit, il va falloir, ces enfants vont rester là longtemps, il va falloir qu'on les prenne en charge, au-delà, j'allais dire, juste de les nourrir et de les loger et de s'occuper de leur santé. Donc il va y avoir toute une évolution au fil des jours et des semaines sur les besoins qui vont être et qu'il va falloir couvrir.
Mmh. On va prendre Bruno aussi qui vient de nous appeler au standard. Bonsoir Bruno.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu. Vous êtes Merci. Boulanger en Haute-Savoie, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Deux boulangeries à Bonneville, en Haute-Savoie.
Alors qu'est-ce que vous avez envie de faire pour ces réfugiés ?
Ben, je voulais simplement reprendre un petit peu l'histoire de ma famille. J'ai ma belle-mère qui est ukrainienne. Alors, elle est plus de ce monde, malheureusement, et heureusement, parce que si elle voyait aujourd'hui ce qui se passe, elle en serait outrée. Donc, c'est une femme qui a été déportée au moment de la Seconde Guerre, car qu'on rencontrait son mari en déportation, qui lui était d'origine polonaise. Ils sont venus vivre en France, ils ont fondé une famille, ben, ils ont participé à la vie de la France. Et aujourd'hui, je dirais que je me dois de tendre la main aux Ukrainiens parce que ce qui leur arrive est absolument affreux. Et je ne vois pas pourquoi on n'intégrerait pas l'Ukraine dans notre sphère européenne. Mmh. Je dirais même peut-être qu'il aurait fallu, pour résoudre le problème avec la Russie, proposer également à la Russie d'intégrer l'Europe au moment de la chute du mur de Berlin et ne pas attendre qu'un dictateur en prenne le pouvoir.
Mmh. Et vous, concrètement, qu'est-ce que vous voulez faire, Bruno, alors ?
Ah ben moi, je suis prêt à accueillir plusieurs familles, les loger à Bonneville, offrir du travail à ceux qui en veulent et faire en sorte qu'ils puissent s'intégrer en France comme ma belle-mère a pu le faire il y a maintenant, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale.
Mmh. Ben merci pour votre générosité, Bruno. Alors pour l'instant, il y a encore assez peu de réfugiés qui sont arrivés en France, à peine une centaine. Mais nous sommes aussi en ligne avec Jean-Louis Pierquin, qui est président de l'association La Belle Porte à Nancy. Bonsoir, monsieur Pierquin.
Bonsoir.
Votre association gère l'accueil des réfugiés toute l'année. Hein. Comment vous vous préparez, vous, à accueillir les Ukrainiens ?
Ben, on accueille des réfugiés, donc on sait à peu près les problèmes que ça représente, et en particulier quand les réfugiés sont là pour des périodes assez longues. Hein, à partir du moment où ils sont là pour plusieurs mois, ou même parfois plusieurs années, on ne sait pas d'ailleurs aujourd'hui comment tout ça va se passer. Il est absolument nécessaire de commencer avec eux un processus de vie dans la société française. Alors ça se traduit par des tas de problèmes, mais entre autres par les problèmes de logement, parce que c'est probablement la chose la plus difficile, puisque les filières habituelles de logement pour les immigrés sont saturées aujourd'hui, ou en tout cas ont peu de capacité. Les logements d'urgence ont aussi assez peu de capacité, puisque c'est l'hiver, donc ils sont aussi relativement rempli. Et donc, on va essayer, avec quatre autres associations de Nancy qui viennent de monter un collectif, de trouver des logements.
Mais des logements chez l'habitant, par exemple, comme le... Pardon de vous interrompre, monsieur Pierquin. Bruno, tout à l'heure, là, avec qui on était, qui lui est à Bonneville, en Haute-Savoie, il disait, moi, j'accueille. Ça veut dire que, potentiellement, vous pouvez laisser des citoyens accueillir des réfugiés. C'est ça, la solution, en fait. Aujourd'hui, vous cherchez des familles.
Je vais vous raconter comment ça s'est passé. On a ouvert une plateforme téléphonique il y a déjà deux jours. Et aujourd'hui, on a 120 places de logement. qui ont été offertes par des particuliers, soit des maisons complètes, parce qu'il y a des gens qui ont des maisons qui sont vides et qui acceptent de les prêter, il y en a d'autres, c'est des chambres, etc. Et donc, on enregistre toutes ces propositions de façon à ce que quand la vague, pas très sympathique, mais quand la vague de migrants vont arriver, ceux qui n'ont pas de famille en France, parce que les premiers qui arrivent, c'est ceux qui ont déjà de la famille en France, mais ceux qui n'ont pas de famille en France, eh ben, on va pouvoir leur faire des offres. Alors ça a deux avantages, c'est que d'abord que on crée un potentiel de logement, puis la deuxième chose, c'est qu'on répond à cette générosité des gens en leur disant prenez patience, on note ce que vous pouvez nous offrir, et dès que on aura bien sûr une bonne vision, qu'on aura des noms des familles, que l'on saura leur composition, etc. etc. À ce moment-là, on vous enverra des gens. Alors, on est à Nancy, il y a des situations un peu extraordinaires, puisqu'on a un homme du Midi qui nous a dit, écoutez, dès que vous en avez 30, j'envoie un bus que je paye parce que j'ai de l'argent, et envoyez-les-moi dans le Midi, je les logerai. Hein. Alors, on a notre notoriété un petit peu a été assez loin, mais enfin, on est quand même concentré sur l'activité en Lorraine Sud.
Oui. Restez avec nous, Monsieur Pierquin. On va prendre Aurore, qui nous appelle de Pologne, je crois. Bonsoir, Aurore.
Oui. Bonsoir.
Soyez la bienvenue.
Merci.
Vous êtes à Varsovie, c'est ça ?
Oui.
Les Polonais sont très, très mobilisés en ce moment pour accueillir les réfugiés.
Ils sont impressionnants.
C'est vrai.
Un sens de l'accueil incroyable, un balai de voitures qui ne discontinue pas à la gare pour aller chercher les personnes, et même les Polonais qui prennent leur voiture pour aller à la frontière chercher les réfugiés. C'est vraiment un élan de solidarité qui est magnifique, mais le travail est énorme. Je suis contente d'entendre la Fondation de France et toutes ces associations qui vont arriver pour nous aider. Nous, on essaye de faire ce qu'on peut.
Oui.
Voilà.
On entend votre émotion, Aurore. Et vous, sachez que nous sommes émus aussi, nous, et on réalise à quel point, en Pologne, il y a une solidarité absolument exemplaire.
Voilà, je reprends mes esprits. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que Bonneville, j'entends que vous allez vous structurer, ça c'est super. Mmh. Et moi, pour avoir eu des Ukrainiens à la maison hier soir, qui sont restés qu'une nuit, parce que en fait, ils marchent, et ils continuent de marcher vers des horizons qui sont très flous pour eux. Qu'est-ce qui oriente leur boussole? Bien sûr, ce sont des rapprochements familiaux, des amis, des villes qu'ils connaissent de nom, et ce sont aussi des perspectives. Alors, je suis pas en train de parler de grandes perspectives, mais de se dire, je vais aller là parce que je sais que je vais pouvoir être autonome financièrement. Je vais pouvoir travailler. Il faut savoir que la grivna a un coût très très faible par rapport à l'euro. Ils savent très bien que sur place, une fois qu'ils auront fait le change, ils vont pas pouvoir s'en sortir très longtemps. Et c'est un peuple indépendant, combatif, très intelligent, très cultivé et qui veut s'en sortir. Et donc, si vous voulez, je parle pour ceux que j'ai rencontrés et qui étaient auprès de moi hier, et que ce sujet a motivé, ils hésitaient entre partir au Portugal et partir en Égypte. Et c'est ce motif du travail qui a orienté leur choix. Et moi, j'étais bien bien embêtée pour les aider. Je défendais l'Europe, mais c'est leur vie, donc c'est difficile d'aider. Donc voilà, ce que je voudrais dire aux communes, c'est que on a des gens qui sont super, qui savent faire plein de choses, qui s'adapteront vite. Des femmes, surtout, bien sûr, c'est ce que vous avez dit, des femmes avec enfants. Donc il faut prévoir sur place de les accueillir parce qu'ils vont arriver, parce que la Pologne ne pourra pas absorber malheureusement tous ces réfugiés. Et d'ailleurs, eux, c'est un peu la course en avant parce qu'ils en ont conscience et se disent on peut pas rester ici parce qu'à un moment donné, il va y avoir engorgement. Donc ils avancent, ils continuent à avancer. Et donc voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est que il y a les logements, et ça c'est génial. Il faut penser en même temps une solution pour les enfants, parce que pour il faut que ces femmes elles respirent, qu'elles puissent faire toute la paperasse, tout ce qui va accompagner ce départ. Et il faut aussi réfléchir à comment on peut aussi leur proposer une petite activité professionnelle. C'est pas un job que je dis, mais c'est une petite activité professionnelle qui va les aider aussi à se diriger vers tel ou tel endroit.
Mmh. Axel Davzac, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Aurore quand vous entendez son témoignage?
Oh, je suis très émue de l'entendre et je suis très contente que la Fondation de France arrive aussi demain en Pologne justement pour discuter avec Aurore et toutes les associations qui sont à pied d'œuvre pour pouvoir les aider, c'est-à-dire très concrètement leur donner les moyens financiers pour pouvoir s'organiser concrètement sur le terrain. Le point où elle a tout à fait raison, c'est que de notre expérience, puisque nous avons un programme migrant à la Fondation de France, c'est que cet accueil et cette prise en charge des personnes qui arrivent dans un pays, en l'occurrence la France pour ce qui nous concerne, nécessite un accompagnement très complet et dans le temps long. C'est aussi pour ça qu'il y a besoin de beaucoup d'argent, parce que si vous voulez, des associations comme celle de M. Berquin sont très précieuses parce qu'elles permettent d'organiser l'accueil des réfugiés. Et c'est vrai qu'il ne suffit pas. Enfin, je trouve que cet élan de générosité d'ouvrir sa porte, sa maison, c'est merveilleux. Mais toutes ces personnes qui arrivent, il faut les accompagner. D'abord, il y a, j'allais dire très bêtement, des problèmes de langue. Oui, il faut des interprètes.
Absolument.
À la Fondation de France, on finance très clairement beaucoup d'interprètes pour les associations qui accueillent des migrants, parce que il y a ce travail-là, déjà se comprendre. Ensuite, il y a besoin de beaucoup d'accompagnement juridique. Et puis ensuite, il faut aussi, d'abord, chaque personne qui arrive, d'abord aujourd'hui, on ne sait pas du tout celles qui voudront repartir quand elles le pourront, de celles qui voudront rester. Pour celles qui veulent rester, il faut les accompagner. Il y a aussi beaucoup d'associations qui travaillent sur l'insertion, l'accompagnement vers l'emploi. Donc tout ça, pour vous dire une chose, c'est qu'il y a besoin de toutes ces associations locales de proximité et que nous, à la Fondation de France, ben, on les aide. Et petit à petit, au fur et à mesure des besoins, nous adaptons notre accompagnement pour faire en sorte que ces personnes retrouvent un peu d'espoir, retrouvent un peu goût à la vie.
Nous sommes aussi en ligne avec Carla Melki, qui est coordinatrice d'urgence à Médecins Sans Frontières en Ukraine. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Merci d'être en ligne avec nous. Où êtes-vous actuellement ?
Écoutez, je suis de retour à la capitale moldave après m'être rendue sur le poste frontière de Palenka, qui est au sud de la Moldavie, à la avec l'Ukraine. MSF, en fait, nous sommes déployés en fait sur l'ensemble des pays frontaliers, donc essentiellement voilà, au niveau des postes frontières. Mais effectivement, là aussi, encore, on voit toute cette aide et cet accompagnement qui est mené par ces volontaires. Et on travaille aussi en Ukraine. On a des équipes qui travaillaient déjà avant la guerre. Et là, on essaie de renforcer nos équipes. Donc, en fait, on a deux vrais objectifs qui sont, d'une part, l'accompagnement l'accueil, on va dire, dans les pays voisins, mais également travailler en Ukraine en fonction des besoins des différents hôpitaux.
Comment arrivez-vous à travailler en Ukraine en ce moment ? Vous arrivez à vous déplacer assez facilement ? Comment faites-vous ?
Non, c'est justement aujourd'hui, c'est un des gros enjeux. C'est pour ça qu'on est notamment sur cette frontière sud Moldavie, c'est pour pouvoir déjà assurer la distribution de l'acheminement de médicaments et de produits pharmaceutiques jusque dans les villes, par exemple, d'Odessa. Donc là, c'est nos objectifs. Mais ça demande effectivement pas mal de coordination et de travail pour arriver à ça. Mmh. On a aussi des équipes chirurgicales qui sont, on va dire, en stand-by, prêtes à pouvoir appuyer. À partir du moment où on aurait des conditions pour pouvoir rentrer dans le pays et avoir des conditions de travail.
Et pour l'instant, vous n'arrivez pas à entrer ?
Alors si on a déjà des équipes, en fait on a des équipes qui sont toujours sur place.
Oui, mais du côté d'Odessa, par exemple.
Non, aujourd'hui ouais. Non, c'est un peu l'objectif de jour qui vient.
Et il y a une assistance évidemment aux réfugiés ukrainiens qui arrivent à la frontière moldave, à la frontière roumaine aussi.
Aussi. Alors effectivement, en fait, en Roumanie, on a une assistance et voilà, énormément de volontaires qui sont présents aux frontières, un peu de la même manière qu'en Pologne, même si le flux est moins important de personnes qui arrivent. Sur la Moldavie, effectivement, on a aussi de l'aide qui a été mise en place, mais qui est moindre qu'est-ce qu'on peut observer en Roumanie et en Pologne. Là, ce qu'on constate nous, c'est que effectivement, hein, il y a des problématiques hein, sur les problématiques de santé qu'on peut voir, c'est que voilà, il y a des personnes qui ont des pathologies chroniques, qui peuvent avoir des décompensations liées au stress, au chemin, à la route. Voilà, donc c'est ce sont des choses qu'on a envie d'essayer de pouvoir appuyer les autorités et les volontaires qui sont à pied d'œuvre.
Vous voyez arriver aussi beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants, j'imagine.
Tout à fait.
Et dans quel état, comment ils vont ces tout petits là? Qui se retrouvent sur la route.
Les gens restent peu quand même sur ces postes frontières. Hein. Ils arrivent après en capitale et après souvent prennent le choix de nouveaux déplacements. Beaucoup d'ailleurs passent par la Roumanie suite à une entrée en Moldavie. Et après voilà les parcours des gens, leurs réseaux font qu'ils vont se déplacer dans différents endroits.
Quand vous entendez l'élan de solidarité en France, vous êtes surprise?
Non, pas du tout. Je trouve que c'est extrêmement bien. Et comme on l'a déjà souligné ici, je pense que l'important, c'est la durée. Puisqu'en fait, aujourd'hui, on a un important mouvement de solidarité qu'on a pu voir sur d'autres problématiques migratoires. L'important, c'est que si ce conflit dure et si ces tensions restent, voilà, cet accompagnement, cet accueil sur la durée, cet accueil aux frontières sur la durée, c'est quelque chose voilà, qui pour moi est un point fondamental sur les semaines et mois à venir et c'est très bien que ça parte très fort et j'espère que ça puisse continuer aussi fort.
Merci beaucoup d'avoir témoigné Carla Melki en direct de Moldavie. La liaison était un petit peu aléatoire mais c'est vraiment, vraiment bien de l'avoir fait. Effectivement, vous le disiez aussi Axel Davzak, il va falloir durer, il va falloir s'organiser et les moyens, les besoins ne seront pas forcément les mêmes au fil des semaines et au fil des mois.
Non, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, les premiers jours, on a des besoins vraiment basiques, première urgence, ce qu'on appelle première nécessité. Donc, eau, alimentation, médicaments et puis premiers soins de santé. Et puis, au fil des jours et des semaines, les besoins évoluent. Il ne faut pas non plus sous-estimer, si vous voulez, le traumatisme psychologique de toutes ces personnes, notamment ces enfants qui sont arrivés. Donc il y a aussi très souvent, nous à la Fondation de France, dans ces situations d'urgence, on accompagne, on fait beaucoup de soutien psychologique. Enfin, il faut essayer de se projeter, même si c'est compliqué. Bien l'idée sûr. De se dire, on part tout, on ne sait pas où on va, il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus rien, on ne possède plus rien, on a tout abandonné. Et pour beaucoup de ces personnes, on a laissé un mari accompagner une famille derrière soi. Enfin, c'est très effrayant. Donc il y a ça, le soutien psychologique. Très souvent, on le maintient pendant des mois, parfois des années auprès des personnes accompagnées.
Jean-Louis Pierquin, vous êtes toujours en ligne avec nous hein, de l'association La Belle Porte à Nancy. Vous veillez aussi vous à ça, à des formes de soutien psychologique dans l'accueil de ces réfugiés.
Axel Davzak a tout à fait raison. C'est-à-dire que l'accompagnement, moi j'ai parlé logement parce que c'était le sujet le plus difficile à résoudre d'une certaine façon. Par contre, les associations sont très adaptées pour justement favoriser cette pré-intégration ou s'intégration des familles. On s'occupe de, on ne rend pas un service, un logement ou l'alimentaire. Non, on accompagne une famille et on identifie chaque fois dans cette famille les besoins. Alors, bien sûr, les enfants sont presque prioritaires dans l'analyse de ces besoins. S'ils arrivent en France et qu'ils vont y rester, la France a le grand mérite d'offrir l'école à tous les enfants qui viennent. Mmh. Et je trouve que ça, c'est fantastique. On peut critiquer notre pays, mais enfin, il offre à la fois la santé et à la fois l'accueil des enfants. Et puis, on a un accompagnement psychologique. Alors, on a un petit problème aujourd'hui, c'est que effectivement, la langue ukrainienne n'est pas celle que nous pratiquons tous les matins. Alors, on mobilise la communauté ukrainienne de la région. Hein, on a des contacts avec eux qui sont tout de suite levés le doigt en disant « on est d'accord, on vient vous aider », etc. Et puis, paradoxalement, on motive la communauté russe parce qu'on a aussi des migrants russes ici et qui, eux, sont tout à fait prêts à venir aussi aider dans une langue qui est quand même assez proche de la leur. Et ils sont très motivés. Voilà.
Oui, c'est intéressant. Que vous disent-ils ?
Vous savez, c'est des gens qui d'abord ne s'expriment pas trop sur le problème politique d'une façon générale. Ils sont pas dans une liberté de parole totale, du compte tenu de leur situation. Mais enfin, je crois que tout le monde est absolument à la fois atterré et stupéfait et on trouve pas de militants pro-agression parmi les gens qui sont ici, en tout cas. C'est plutôt le contraire.
Hein. Bien sûr.
Enfin bon, c'est pas le sujet, de toute façon.
Non, c'est pas le sujet, clairement. Mais ouais. Merci. Restez encore avec nous, monsieur Pierquin. Gaël Perdriau est en ligne, c'est le maire de Saint-Étienne. Bonsoir, monsieur le maire.
Bonsoir.
Votre ville est jumelée avec Louhansk en Ukraine depuis 1959. Louhansk, c'est dans le Donbass, hein, ça fait partie des régions séparatistes pro-russes. J'imagine que vous êtes très ému par cette situation.
Bien sûr, très ému, très choqué, que ce soit dans les cours d'école ou dans les magasins, sur les places. Évidemment, toute la population, à Saint-Étienne comme ailleurs, je le présume, ne parle que de ça. C'est très anxiogène et en même temps très très fédérateur, parce que il y a un élan de solidarité qui s'est manifesté dès les premières heures et que nous accompagnons, que nous organisons également avec la ville de Saint-Étienne.
Alors, de quelle manière ? Expliquez-nous ce que vous faites à Saint-Étienne.
Alors, on a déjà une expérience en la matière, puisque en 2015, nous avons accueilli des réfugiés syriens. L'année dernière, c'était des Afghans. Et donc, évidemment, dès vendredi, nous avons annoncé que nous mettions à disposition pour accueillir des réfugiés ukrainiens. Nous avons réuni l'ensemble des bailleurs sociaux, le foyer international, l'auberge jeunesse, les associations également d'aide alimentaire, vestimentaire, le Secours populaire, le Secours catholique, la Croix-Rouge, la Banque alimentaire, et puis des entreprises également qui nous ont aidés lors des précédents accueils, les associations également d'étudiants, pour faire en sorte que lorsque les premiers réfugiés arriveront, eh bien, ils soient accueillis dans les meilleures conditions qui soient, avec l'université également, pour essayer de surpasser le problème de la langue et de faire en sorte que, malgré ces perturbations évidemment psychologiques extrêmement fortes, l'accueil chaleureux stéphanois puisse les réconforter.
Combien de réfugiés pouvez-vous accueillir aujourd'hui ? Vous avez combien de propositions ?
Alors immédiatement, grâce à la mobilisation de la ville et des bailleurs sociaux, nous avons une trentaine de logements qui sont aujourd'hui disponibles.
Des logements sociaux donc, hein ?
Pardon ?
Des logements sociaux, hein, pour l'instant.
Oui, tout à fait.
On ne parle pas des particuliers.
Et puis, depuis lundi, nous avons énormément d'appels sur la plateforme téléphonique de la mairie et puis sur la boîte mail de particuliers qui proposent spontanément également des chambres, des studios, parce que les enfants font leurs études ailleurs et la maison est grande. Et du coup, ils mettent à disposition les pièces de leur logement et ils sont très très nombreux. Ça fait également chaud au cœur.
Je sais que la situation des enfants d'Ukraine aussi vous préoccupe particulièrement. Vous allez verser une aide à l'UNICEF, c'est ça ?
Oui, Saint-Étienne est ville amie des enfants et nous travaillons avec l'UNICEF depuis de très nombreuses années. Et quand nous avons entendu leur appel pour venir en aide effectivement aux enfants en Ukraine, nous avons décidé de proposer au prochain conseil municipal une aide financière de 20 000 euros et nous proposerons une deuxième subvention du même montant à l'association stéphanoise Pompiers Humanitaires Français, qui est déjà partie d'ailleurs avec des infirmiers, des pompiers sur place pour venir en secours à la population.
Sur place, c'est-à-dire du côté de la frontière polonaise ?
Exactement, exactement. Du côté de la frontière polonaise, à quelques kilomètres de l'Ukraine, pour pouvoir profiter, je dirais, d'une base arrière polonaise plus sûre, et puis aller sur le théâtre d'opération pour venir en aide à la population ukrainienne.
Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir été en ligne avec nous. On va prendre une auditrice qui s'appelle Fanny. Bonsoir, Fanny.
Oui, bonsoir. Moi, je voulais vous parler d'un petit gars qui s'appelle Kirill, qui est en terminale dans notre établissement. Alors, moi, je suis d'un gros village, ça s'appelle Le Teil, en Ardèche. C'est une ville qui a subi un séisme il y a 2 ans. Nos élèves, ils ont été éclatés dans tous les lycées du coin. Et là, depuis 2 jours, il y a Kirill, en terminale, qui fait le pied de rue devant mon bureau. Je suis conseiller d'éducation pour essayer de mettre des choses en place. Et effectivement, il est relayé par nos élus du conseil des lycéennes, par les élèves de la maison des lycéens pour essayer de faire des choses. Et donc, à partir de demain, on a trouvé une association. C'est l'Aide Action Internationale Pompiers. C'est une structure à Montélimar, parce qu'on voudrait que ça soit un peu encadré, pour pouvoir faire une collecte pendant toute la semaine qui vient, la fin de semaine et puis la semaine prochaine, et puis pouvoir amener des dons en Moldavie, puisque je crois qu'il y a des camps de réfugiés qui sont installés, et donc dans ce cadre-là, on voudrait aider, et nos élèves, qui sont un petit peu meilleurs que nous sur Instagram et compagnie, vont essayer de diffuser l'information, et je pense que c'est important de dire que les jeunes sont concernés, ont envie de faire des choses, et c'est quand même C'est cette catastrophe, voilà, des choses belles et de cohésion d'équipe qui touche forcément beaucoup dans nos établissements, mais particulièrement au TEI qui a été déjà bien secoué, c'est le cas de le dire, pardon, de montrer cet élan et voilà, par ce petit jeune bien motivé qui dès la reprise lundi, puisque nous on est rentré lundi de vacances, est venu demander et dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire. Ben voilà, on espère pouvoir avec notre petite goutte d'eau, voilà, c'est petite goutte d'eau, essayer de faire avancer les choses.
Axel Davzac, vous pouvez relayer l'initiative de Kirill dont nous parle Fanny, par exemple, à la Fondation de France.
Bien sûr, oui, sur les réseaux sociaux de la Fondation de France, c'est moi, je suis comme vous, je suis pas forcément la meilleure pour faire du relais sur Instagram, mais on le fera avec grande joie. Je crois qu'au-delà de ce qu'a Bartillier. Enfin, moi, je ne doute pas un instant que la jeunesse et que les jeunes soient généreux et engagés. Je trouve qu'ils nous le prouvent tous les jours. Et après les deux années de Covid qu'ils ont passées, je trouve que ils sont extraordinaires. Mais ce que je trouve surtout très joli pour notre pays aussi, je crois qu'on peut aussi être assez fier, c'est de se dire que voilà, malgré les difficultés, les mois difficiles que nous venons de, et souvent les discours un peu pessimistes et négatifs, voilà, tout le monde est prêt, tout le monde est là, tout le monde a envie d'aider, tout le monde a envie de contribuer, et cette belle énergie, tout l'enjeu, ça va être de la maintenir au fil des semaines et au fil des mois, parce que malheureusement les conséquences de cette guerre ne pourront pas s'effacer en quelques jours.
On va prendre aussi l'appel de Bernard, 01 45 24 7000. Bonsoir Bernard.
Bonsoir France Inter.
Bienvenue à vous. Merci. Alors dites-nous ce que vous voulez faire.
Eh ben écoutez, nous on se situe à Vassieux-en-Vercors, donc village martyr de la Seconde Guerre mondiale. Et dès les premiers moments de cette guerre, évidemment, ça nous a remué, malgré qu'on n'ait pas vécu nous la Seconde Guerre mondiale. Mais Vassieux et le Vercors, c'est un lieu où il y a énormément de centres d'éducation populaire, des centres où on fait des classes transplantées, des centres de vacances qui sont vides actuellement et qui sont aussi des lieux où ben les gens sont là et ont avec leur générosité dit tout de suite, on peut ouvrir les bras, on peut faire quelque chose avec beaucoup de lits, parce qu'un centre de vacances, ça peut être de 30 à 150 lits. Voilà, donc on est en train de cheminer, et on fait aussi appel aux autres associations, j'entendais tout à l'heure Saint-Étienne, là, qui disait, oui, nous on veut aider l'UNICEF, et on veut, voilà. Et ben voilà, ça sera peut-être des lieux aussi où les familles pourront venir au vert, voir autre chose, voir des chevaux, voir la ferme, faire des activités nature, et puis aussi rester, bien sûr, dans l'urgence, on pourra accueillir longtemps, c'est vrai qu'on est un peu loin de tout, j'allais dire, réseau urbain, mais nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut vite agir pour les enfants pour que le traumatisme soit le plus léger possible. Alors, on est une troupe de théâtre, on est des clowns, il y a des animateurs, il y a des moniteurs de ski, il y a beaucoup de choses qui fait qu'on peut faire peut-être quelque chose quand même pour redonner un peu le sourire, sans oublier, bien sûr, tout ce qui va autour, les accompagnements, voilà.
Mais c'est vrai que c'est une bonne idée, Jean-Louis Pierquin, vous êtes toujours en ligne avec nous, association oui. La Belle Porte à Nancy. Ouvrir des centres de vacances qui sont vides pour accueillir des réfugiés, pourquoi pas?
Oui, on a d'ailleurs eu déjà une proposition d'une colonie de vacances qui s'est proposée d'accueillir pendant un certain temps. Voilà. Alors tous les ans en plus, nous pendant l'été, on organise un séjour de vacances pour ces familles-là parce que on va, s'il reste un peu longtemps, il va aussi falloir, bien sûr, dans cette préintégration, leur donner des moments de détente, hein, parce que ça va pas être quand même simple pendant les premiers mois. Non. Et donc, à la fois, on va accueillir dans des colonies de vacances, je pense, essentiellement pour le logement de première nécessité et d'urgence, parce que les conditions de vie collective dans les colonies de vacances ne sont pas adaptées à des solutions à long terme. Et puis, si l'été, les colonies de vacances se sont libérées, on les réinvitera pour passer un peu de moment au soleil dans nos Vosges.
merci beaucoup, merci pour votre enthousiasme et votre générosité, Jean-Louis Pierquin. On va prendre un dernier appel, c'est Michel. Bonsoir Michel.
Oui.
On vous écoute, bienvenue sur France Inter.
Allô?
Oui Michel, est-ce que vous m'entendez? Ah, je crois qu'on a un petit problème de liaison.
Oui, je vous écoute.
Michel,
oui.
C'est à vous.
Oui, voilà. Donc tout d'abord, je voudrais dire que moi j'aime l'Ukraine, j'y suis allé 18 fois.
Ah oui,
Ensuite, la dernière fois au mois d'octobre.
Oui.
Ça fait 8 ans depuis le début de la guerre que je les soutiens et que je dénonce cette armée, mais personne ne m'a cru. Voilà. Et puis, bon, ici, il y a une famille ukrainienne, dont on vient de faire venir 8 Ukrainiens.
Là, maintenant ?
Oui, oui, ils sont arrivés ce matin.
Oui.
Donc, ils sont pour le moment hébergés à l'étroit dans des maisons, mais on a des contacts avec plusieurs municipalités pour pouvoir les loger.
Mmh.
Voilà, et ensuite, moi, de mon côté, je contacte beaucoup la presse, j'agis aussi à ma mesure et je fais ce que je peux. Et
comment sont-ils arrivés jusqu'à vous, Michel ? C'est parce que vous les connaissez ?
Bien sûr que je les connais. Ils sont d'un village de la Galicie, de l'Ouest, et ils sont arrivés à travers la Slovaquie. Et en Slovaquie, ils avaient des connaissances, dont ils étaient logés en Slovaquie. Et maintenant, avec les Ukrainiens d'ici, de mon canton, qui sont leurs parents, donc on va essayer de mieux s'organiser.
Mmh. Eh ben, c'est très bien. Et donc, vous voyez ça avec les maires des villes qui sont autour de vous. Merci, Michel, pour votre générosité, pour votre amour de l'Ukraine. On va dire merci aussi à Axel Davzak, directrice générale de la Fondation de France. Qu'est-ce qu'on peut faire, donc, ce soir, concrètement ?
Ce soir, très concrètement, il faut faire des dons. Il faut donner de l'argent. C'est la première chose à faire. L'arrivée des réfugiés dans notre pays avec l'organisation des logements, ce sera un tout petit peu plus tard.
Ce sera un petit peu plus tard. Pour l'instant, on donne.
Il faut des dons pour pouvoir envoyer dans les associations comme Aurore qu'on a entendu tout à l'heure pour pouvoir aller aider les associations sur place à prendre en charge les personnes qui arrivent.
Et on rappelle que vous travaillez à la Fondation de France avec des associations sur place et vous savez exactement. Le seul problème pour l'instant, c'est encore de savoir comment acheminer cette aide. C'est ça le point d'interrogation à l'intérieur de l'Ukraine.
Absolument.
C'est le seul point d'interrogation.
Mais là, nous avons des contacts avec des associations voilà, qui sont déjà sur place, qui étaient là depuis longtemps. Et donc, nous sommes en lien avec eux pour trouver les moyens d'y arriver.
Merci infiniment d'avoir été notre invité ce soir, Axel Davzak. Merci à tous ceux qui sont intervenus sur France Inter pour cet appel à l'aide aux Ukrainiens. Merci, bonne soirée à vous.